France Culture.
Nous sommes au musée de Besançon, aujourd'hui un mardi, qui est notre jour de fermeture au public. Mais il se passe parfois d'autres choses. C'est un jour pendant lequel, soit nous, les équipes de conservation, équipes techniques, nous travaillons, nous déplaçons des tableaux, nous avons des œuvres qui partent en prêt. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'installation d'une soirée privée pour une entreprise locale qui va bénéficier d'une privatisation au musée ce soir.
Vous avez un studio maton, une illustratrice, du live painting, et puis on va voir des danseurs qui vont venir tout à l'heure.
Musée, la réinvention permanente. Une série de Christelle Le Polotec et Agnès Catou. Troisième épisode, sur fréquentation et financement.
Donc en fait, il y a une belle montre LIP à gagner. Et en fait, il y a des chocolats, il y a une statue du musée des Beaux-Arts, Pompon.
Au cours de nos déambulations et de nos rencontres dans les musées, un sujet est revenu de manière pudique, mais systématique. L'argent. La fréquentation, parfois en peine depuis la crise du Covid, la crise budgétaire qui pousse à fermer ou à fusionner des établissements, la baisse des dotations publiques, l'augmentation des prix de l'énergie, la course au mécénat et la concurrence des grandes fondations privées, partout, à Paris, à Colmar ou à Besançon, c'est la même question. Comment financer les expositions temporaires, les travaux de rénovation, l'acquisition de nouvelles œuvres? En devenant des EPA, établissements publics administratifs, de nombreux musées sont devenus certes plus autonomes, mais aussi accaparés par la question du financement. Alors il a fallu augmenter le prix des entrées, privatiser, organiser des défilés de mode sous les yeux des tableaux de maîtres du XVIIe siècle, développer sa marque, multiplier les boutiques et les cafés, bref, trouver toujours plus de ressources, tout en gardant son âme.
Donc passez un bon moment, et puis profitez, bienvenue.
En fait, c'est un moment très important, l'autonomisation des musées.
Roxana Azimi, journaliste au Monde.
Parce que c'est le moment où ils ont pu un peu prendre de l'indépendance, mais c'est aussi le moment où ils ont dû avoir beaucoup plus de ressources propres. Et c'est le moment de bascule où on est obligé de chercher beaucoup d'argent, de chercher beaucoup de mécénat, voire d'accepter tous les mécénats, sans forcément se poser de questions, ou même si on s'en pose, de un peu mettre un mouchoir aussi sur ce qu'on peut penser. C'est le moment où les musées se sont beaucoup rapprochés du monde du luxe, où le monde du luxe a vraiment investi ces institutions. Donc ça, c'est quand même la plus grande mutation de ces 15 dernières années. C'est vraiment la recherche d'argent qui est une mission très importante, et beaucoup de directeurs ont aussi été choisis, pas uniquement parce que c'était des grands conservateurs, mais parce qu'ils étaient en capacité de trouver du mécénat. Et ça se voit notamment à Versailles, où ça fait des années qu'on n'a plus de conservateurs qui dirigent Versailles, mais des gens qui ont des carnets d'adresses très étoffés pour lever de l'argent.
Didier Fusilier, vous êtes président du Grand Palais RMN. Le Grand Palais, c'est à la fois un lieu d'exposition et un lieu d'événements privés. C'est comme ça qu'il se finance?
Alors, il faut bien voir que nous n'avons que 16% de notre budget, qui est de l'ordre d'un peu, allez, en gros de 100 millions d'euros, tout compris. Il n'y a que 16% de financement public. Il faut qu'on trouve chaque année 84% de ce budget, donc plus de 80 millions d'euros. Donc évidemment, il y a des événements qui viennent, notamment dans la nef que tout le monde connaît, qui font l'objet de locations. Vous avez des coproductions d'expositions, ce que nous allons faire avec le Centre Pompidou. Vous avez aussi des expositions qui sont privées. Donc là, il y a une location et nous prenons une part de pourcentage sur la billetterie. Donc quand vous avez des expos qui marchent très très fort, la Dolce & Gabbana, chez Hiroshi Ohta, bon, bah, tant mieux pour nous.
En tant que directrice de Vidéo Museum, Isabelle Rosa, donc vous êtes en lien constant avec les musées. Est-ce que la multiplication de fondations privées ou de collections privées a un poids aussi sur le financement des musées publics? Ou en tout cas, est-ce que cette mise en concurrence les met à mal?
Alors, je pourrais pas forcément répondre à cette question. Ce qui est clair, c'est que l'arrivée dans le paysage de grandes collections privées, comme la Fondation Louis Vuitton, récemment la collection Pinault, forcément ont changé, en tout cas à Paris, ont changé très très fortement le paysage. Qu'ils ont des moyens de faire des expos extraordinaires, qui attirent vraiment les foules. Donc ils sont arrivés dans un temps très court dans le paysage. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est frappant. Récemment, pendant l'arrivée de la collection Pinault, on était aussi pendant des années de fermeture du Grand Palais, qui est aussi un lieu de très très grandes expositions hein, depuis des décennies. Le Grand Palais va rouvrir, le Centre Pompidou va fermer. Donc on est aussi dans quelque chose de très mouvant. Je parle de très grands acteurs, et le monde des musées ne peut pas être réduit à ces très grands acteurs, mais ils sont néanmoins importants. Donc, effectivement, c'est un paysage qui est très mouvant, et on sait que dans l'organisation d'expositions de niveau international, il y a une concurrence pour l'obtention des prêts. Donc, effectivement, je peux imaginer que ça ne simplifie pas la vie des institutions publiques d'avoir cette concurrence accrue par de nouveaux acteurs. Depuis des décennies, il y a une concurrence au niveau international sur qui lance une expo, Gauguin. On sait que ça va être très compliqué de les obtenir. J'ai travaillé autrefois à la RMN Grand Palais, justement au département des expositions, et il y avait cette concurrence quand on a fait l'exposition Hopper. C'était très compliqué d'obtenir les prêts. Enfin voilà, les grandes expositions sont des enjeux d'obtention de prêts qui sont toujours très compliqués.
Pour survivre dans cet environnement concurrentiel, les grands musées se transforment en objets hybrides entre services publics et insertion dans le marché. Ils développent leurs marques et multiplient les lieux de présentation des collections en créant des antennes en région, à l'image du Louvre-Lens.
Alors, donc ici, on a une maquette du site dans les années 50.
Laetitia Magnier, jardinière médiatrice au Louvre-Lens.
Donc, c'est une maquette qui a été faite par un ancien mineur qui s'appelle Jean Latozzi. Et quand il y a eu le concours pour savoir où il y allait avoir un nouveau Louvre sur le territoire, donc Lens s'était portée candidate. Et donc quand elle a remporté le concours, donc ce mineur a décidé de construire une maquette pour montrer ce qu'il y avait sur le site qui allait accueillir le nouveau musée. Donc quand on arrive dans le musée, dans le hall, on a cette maquette qui accueille le visiteur et qui présente le site dans sa forme actuelle, l'orientation est bonne et on peut se projeter en fait sur la zone dans les années 50. Donc il faut savoir que dans les années 60, la mine a fermé et ça a laissé une friche de 20 hectares entre Lens et Liévin.
Alors le puits qu'on voit à l'extérieur, il se trouve où là sur le...
Donc nous avons le chevalement, cette grande tour qui se trouve en fait en plein milieu du site. Et donc c'est là où se trouvait le puits. Donc il a été foncé dans la fin du 19e siècle. Et donc on avait l'entrée principale qui se trouvait non loin du puits. Et c'est là que se trouve aujourd'hui l'entrée principale du musée.
Bonjour, je suis Annabelle Ténès, je suis la directrice du Louvre-Lens. C'est intéressant de revenir sur l'histoire de la création du Louvre-Lens. Donc en fait, le Louvre-Lens se crée à un moment de réflexion de déconcentralisation et décentralisation des musées, où il est proposé aux grands musées nationaux d'avoir la possibilité d'avoir des musées. Alors, je sais pas si on appelle petit frère, petite sœur, cousin, antenne, tout est à écrire à ce moment-là, au milieu des années 2000. Et donc, c'est ce qui va donner notamment le Louvre-Lens et le Centre Pompidou-Metz. Alors pourquoi Lens en particulier? Pour plusieurs raisons. En fait, dans notre pays qui est quand même très bien maillé en musées, hein, c'est une de nos grandes chances, eh bien Lens fait partie des très rares villes à n'avoir aucun musée. On est sur un territoire en pleine transformation, et je dirais plutôt en un territoire qui est à un moment assez difficile, puisque les mines ont fermé depuis déjà quelques temps. Il y a une question d'identité, il y a une question de développement du territoire, il y a une question aussi de créer et de constituer une nouvelle, alors je sais pas si c'est identité, mais un nouvel élan. Cet élan, il se matérialise par quelque chose qui est assez incroyable, c'est qu'à l'époque, il y a 8000 personnes qui écrivent au ministère de la Culture pour dire « on voudrait le Louvre à Lens ». ce qui est quand même un élan populaire assez étonnant. Et qui font d'ailleurs la manière de travailler le musée avec les habitants et les habitantes. Par exemple, c'est un des rares musées que je connaisse où la Société des Amis se crée avant même que la première pierre se pose, en soutien. Donc il y a cette dimension qui est très forte, et le musée aussi ne s'installe pas dans un lieu classique, puisqu'habituellement, c'est vrai qu'on situe souvent les musées de Beaux-Arts en centre-ville, dans des monuments historiques.
Choc des images, choc des cultures et de l'histoire au Louvre-Lens.
4 décembre 2012.
À droite du musée, les plus hauts terris d'Europe, plus haut que la pyramide de Khéops, un joli clin d'œil à la pyramide du Louvre à Paris. À gauche, le stade de foot. Mais ce matin, pendant l'inauguration officielle du musée, certains pensaient surtout à ce qu'ils avaient vécu en dessous du musée. Ce sont les anciens mineurs, venus avec leur casque et leur émotion. Parmi eux, André Petit.
À 16 ans, on descendait.
Vous avez des mauvais souvenirs, ici, sur cette fosse?
Oui, parce que des camarades, ils ont été tués.
Alors aujourd'hui, quel sentiment vous avez de vous retrouver dans ce Louvre, au-dessus de là où vous étiez?
Ça nous fait drôle. C'est peut-être un bien pour nos petits-enfants, pour nos enfants. On n'a jamais vu des chefs d'œuvre pareils. Quand au début, ils ont dit on va faire un Louvre, ils sont un peu moflés.
Comment vous dites?
Un peu moflés, un peu...
Bref, un peu fou ce Louvre. C'est Léonard de Vinci, Rembrandt et autres chefs d'œuvre au-dessus d'une mine de charbon. Lucien Laurent croit carrément halluciné.
C'est formidable de voir ce que je vois avec mes yeux. Pas possible de voir ce que je vois. Dire que là, il y avait un plumine qui se trouve sur le côté.
Vous étiez là-dessous et aujourd'hui, il y a des œuvres d'art.
J'étais incroyable. En dessous, puis aujourd'hui, il y a des œuvres d'art qui sont au-dessus, à côté de moi. C'est formidable. Les gens qui sortaient pas de notre quartier ne connaissent pas le Louvre, ils viendront voir le Louvre à Lens. C'est ça qui est formidable.
Maintenant, reste à savoir si le Louvre Lens connaîtra l'effet Bilbao. À Lens, Isabelle Pasquier, France Inter.
Annabelle Ténèze, est-ce que le fait d'être dans le Louvre, ça entraîne une obligation de rentabilité ou de fréquentation ?
Le Louvre-Lens, c'est un établissement public autonome qui est principalement financé par les collectivités territoriales. Évidemment, nous avons des ressources propres, à hauteur d'environ entre 15 et 20% par an. Donc, ce que j'appelle les ressources propres, c'est les revenus qui viennent de la billetterie, de la privatisation, du mécénat. Et donc, sur les subventionnements publics, c'est environ 80% qui viennent de la région Hauts-de-France, 10% du département du Pas-de-Calais, 10% de l'agglomération de Lens-Liévin. Et cette année particulièrement, un soutien de l'État qui passe de 300 000 à 500 000 euros. Donc c'est le fonctionnement budgétaire du musée. Mais c'est très important de dire que ce musée, il se base aussi sur un choix originel très fort, renforcé, qui est la gratuité de l'accès à la Galerie du Temps. C'est quelque chose qui est beaucoup réfléchi à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a une grande réflexion sur comment créer un Louvre autrement, comment regarder différemment les collections, comment mettre le public et les habitants au cœur du musée. Et donc, le cœur battant de cette réflexion se matérialise vraiment dans cet espace de la Galerie du Temps, non seulement dans sa réflexion sur la médiation, sur la présentation des œuvres, mais aussi sur son accessibilité. Moi, j'ai coutume d'utiliser l'expression qui n'est pas canonique ni posée, qui est que c'est un musée national des habitants et des habitantes. Et on voit que la gratuité de ces espaces-là fait que le musée, si on analyse le visitorat du musée, eh bien, en gros, c'est un tiers de personnes qui sont des primo-visiteurs, un tiers de personnes qui viennent plus ou moins régulièrement, une fois par an, deux fois par an. Et ça, c'est très étonnant. C'est une pratique qui est plus proche d'habitude du public de bibliothèque que de musée. Un tiers du public qui vient plus de trois fois par an. Et quand je dis plus de trois fois, ça peut être cinq fois, six fois. Il y a un public d'habitué du musée qui vient y passer un moment, qui vient très régulièrement. Et ça, c'est aussi lié à la réflexion sur l'accueil, à la réflexion sur les espaces de vie. Et vraiment, c'est ce qui ressort des études, à la gratuité de la Galerie du Temps, qui, au départ expérimental, comme un test, a été rappelé très régulièrement comme des choix politiques très forts par Daniel Percheron, par Henri Loirette et aujourd'hui par Xavier Bertrand, le président de la région de France, et par Laurence Descartes.
Roxana Azimi,
au Louvre-Lens. Voilà, c'est un grand succès du point de vue notamment de la Galerie du Temps, etc. Mais la région qui finance, je crois, à 80% est un peu déçue des retombées économiques qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'ils avaient espéré. Notamment le tourisme étranger qui n'est pas spécialement présent. Mais c'est comme si on demandait au musée d'irriguer une oui. région entière.
Mais ça, c'est le problème du fantasme Bilbao. En fait, le Louvre-Lens, comme beaucoup d'autres collectivités qui ont massivement financé un lieu, rêve de l'effet Bilbao, avec la création du Guggenheim Bilbao, qui a contribué vraiment à changer du tout au tout la ville de Bilbao et cette région, ce Pays Basque. Mais en fait, l'effet Bilbao n'a existé qu'à Bilbao. Et ce n'est pas le Guggenheim Bilbao qui a totalement métamorphosé la ville. Il y avait tout un plan d'urbanisme, c'était dans un programme beaucoup plus long. Donc on ne peut pas attendre d'un établissement qu'il change totalement une région qui souffre, une ancienne région minière, où il y a un taux de chômage important, où il y a une souffrance sociale importante. Non, le musée ne peut pas tout changer. Mais en même temps, c'est quand même le musée qui a la proportion de visiteurs, ouvriers, employés, la plus grande en France. Donc ils ont quand même réussi ce pari du musée de proximité. C'est un musée qui est aimé par le voisinage. C'est un voisinage modeste. Donc ils ont quand même réussi ça. Donc on leur demande, en plus d'avoir réussi quand même une implantation locale, c'est-à-dire personne ne se dit le Louvre-Lens, c'est un parachutage du Louvre-Paris. C'est un établissement dont les Lensois sont fiers, que les Lensois ont adopté, où ils aiment aller. Et ça, c'est toujours pas suffisant. Il faut qu'en plus, le musée ait métamorphosé la ville. Mais le musée peut pas remplacer des années, des décennies de problèmes de gestion par les collectivités, de manque d'ambition, de manque de vision, de manque d'argent insufflé. Enfin, le musée, c'est pas un urbaniste, c'est pas un pourvoyeur d'emplois, enfin, c'est pas un opérateur touristique. Il faut arrêter de trop en demander aussi au musée. Déjà, ce qu'a fait le Louvre-Lens, je trouve ça remarquable, hein.
Il y a toujours énormément de monde dans la Galerie du Temps depuis la réouverture de la galerie, puisqu'on est environ à un quart de fréquentation supplémentaire dans cet espace depuis décembre. Donc il y a une envie de découvrir l'ensemble de ces nouvelles œuvres. Et comme vous allez voir, il y a vraiment aussi tous les âges. Donc là, on est sur le point que nous, on appelle le belvédère, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire que on voit l'ensemble des œuvres comme dans un très 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 léger surplomb qui permet d'avoir une vue d'ensemble. Et on voit cette gigantesque chronologie hein, qui part de moins 5000. Mais l'œuvre actuellement la plus ancienne, c'est le roc de serre du musée d'archéologie nationale, puisque dans cette nouvelle galerie du temps, on a aussi invité certaines œuvres du musée d'archéologie nationale pour rappeler aussi que le premier geste, c'est un geste d'artiste hein, sculpté. Également le musée du Quai Branly qui nous a prêté des œuvres aussi bien d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique latine et aussi le musée Guimet qui nous permet d'avoir des points de rencontre entre civilisations, y compris quand ces civilisations ne sont pas encore connectées. Comme là, avec la céramique japonaise Jomon et le Goudea, sont deux mondes qui ne se connaissent pas. Et en même temps, quand on regarde ces mondes qui parfois ne se connaissent pas, ce qui frappe, c'est le socle commun d'humanité, en fait, qui traverse ces œuvres, ces dialogues et ces chronologies.
On peut aller le voir, lui alors ?
Oui.
Hello. On va à Sadiat, c'est là où se trouve le Louvre du désert.
11 avril 2012.
Sadiat, l'île de beauté. Le complexe culturel le plus grand du monde verra le jour ici. Il comprend théâtre, opéra, salle de concert, centre d'art et 3 musées prestigieux, dont le Louvre d'Abu Dhabi. 5 ans après la signature du partenariat entre la France et l'Émirat, nous allons constater l'avancée des travaux de l'annexe du célèbre musée français. Rendez-vous avec Céline Pouya, chef de projet auprès de la TDIC, l'agence d'investissement touristique chargée de réfléchir à l'avenir du pays.
L'objectif, c'est aussi de développer des musées qui soient très spécifiques et qui soient très ancrés dans la dynamique et dans les composantes régionales. On n'ira pas voir un énième Guggenheim ou un énième Louvre. Ils seront entièrement intégrés, si vous voulez, dans le paysage régional. Et donc, ça attirera en effet des populations d'Asie qui viendront voir ici quelque chose qui s'inscrit entre deux mondes. On n'utilise pas du tout la marque Louvre, ce n'est pas une marque qui est ici à Abu Dhabi. Le Louvre à Abu Dhabi est un musée totalement différent du Louvre de Paris, ce n'est pas une réplique. Dans chaque aile, il y a une représentation chronologique des civilisations, mais à l'intérieur, il y aura un dialogue thématique entre les civilisations. Et donc des œuvres d'art de civilisations différentes, mais d'une période contemporaine, pourront être mises en exergue et permettront à la fois des rapprochements. C'est comme ça que ce concept universel va se mettre en place peu à peu. Le Louvre à Abu Dhabi est un Louvre totalement autonome et indépendant dans sa conception.
En fait, il y a une sorte aujourd'hui de constellation de Louvres. Quand je dis constellation de Louvres, il y a le Louvre évidemment à Paris, il y a le Louvre-Lens, il y a le Louvre Abu Dhabi dont l'histoire est un peu différente puisque le Louvre Abu Dhabi, par exemple, a vocation à créer une collection. Donc aujourd'hui, au Louvre Abu Dhabi, j'espère que je ne dis pas de mauvais chiffres, soit à moitié de la présentation de la collection vient maintenant de la collection acquise par le Louvre Abu Dhabi, évidemment avec l'accompagnement du musée du Louvre. On a souvent coutume à dire que ce sont deux lieux aussi laboratoires et expérimentaux qui nourrissent aussi le Louvre à Paris. Notamment sur les dialogues entre les civilisations, sur la réflexion par rapport au public.
Le Louvre Abu Dhabi, ça n'a de nom que le Louvre. Hein. C'est la marque Louvre.
Roxana Azimi.
C'est-à-dire, on a vendu la marque Louvre, mais c'est une marque vendue, en fait, on va dire. L'agence France Muséum, qui faisait tout le travail scientifique, a fait acheter des œuvres par le Louvre Abu Dhabi. Et il y a aussi des dépôts réguliers, des prêts réguliers des musées français.
Les œuvres sont prêtées.
Les œuvres sont prêtées, oui, elles ne sont pas données.
Et donc, quel intérêt pour le Louvre ?
400 millions d'euros. C'est un intérêt non négligeable. C'est grâce à ça qu'ils peuvent imaginer peut-être financer leur prochaine porte. Donc, c'est 400 millions d'euros. En fait, moi, ce que je trouve problématique, c'est quand on se couche pour rien. C'est-à-dire, le problème, par exemple, pour moi, c'est le mécénat du Qatar à l'hôtel de la Marine, qui donnait sur 10 ans, peut-être 20 millions d'euros, c'est-à-dire 2 millions par an, ce qui, à l'échelle d'un État gazier richissime comme le Qatar, c'est que dalle. Et donc, accepter la présence, alors ils vont vous dire c'est pas le Qatar, c'est le prince Al-Thani, c'est pas le Qatar. Dans ces pays-là, l'État et la royauté se confondent, hein, donc je fais pas de distinguo, donc accepter la présence d'une entité, alors ils vont dire ce n'est pas un pays, mais c'est un prince qatari, pour une somme aussi dérisoire, là, moi, ça me fait vraiment tiquer. Parce que là, c'est vraiment vendre un espace prestigieux, place de la Concorde, pour une somme aussi dérisoire que 20 millions d'euros. Ça, je trouve ça inadmissible. 400 millions, ça commence à être autre chose. Et c'était pas 400 millions, c'était la marque. C'était 1 milliard pour le reste.
Le reste, c'est-à-dire
ben, c'est-à-dire
les œuvres.
Le travail scientifique, les prêts d'œuvres, voilà, ça fait une grosse différence.
Après la pyramide, le Louvre-Lens et Abu Dhabi, le dernier grand projet, c'est le chantier Nouvelle Renaissance. Annoncé fin janvier par le président Macron après que le musée du Louvre ait, opportunément, fait fuiter dans la presse des informations sur son état alarmant de délabrement. Le projet, porté par Laurence Descartes, directrice du Louvre, c'est une nouvelle entrée qui devrait être aménagée d'ici 2031 pour un coût de 500 millions d'euros. Le concours d'architecture a été lancé le 27 juin dernier, mais l'opportunité de ces travaux faramineux en temps de restrictions budgétaires, laisse certains perplexes.
Alors le projet de Renaissance, nouvelle Renaissance,
nouvelle
du Louvre...
Nouvelle Renaissance, c'est un parti politique.
C'est ça, voilà. Donc nouvelle Renaissance au Louvre, c'est une très belle idée, et puis c'est une idée qui tombe sous le sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Adrien Goetz, écrivain et historien de l'art.
Si vous voulez aller au Louvre, et bien vous attendez devant la pyramide, sous la pluie, la grêle. La pyramide de Peille est devenue un symbole, elle a bien des vertus, mais elle repose sur deux escalators qui sont moins efficaces que ceux de la gare Saint-Lazare. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui faire entrer autant de gens avec le dispositif de sécurité à l'entrée, indispensable? Comment est-ce qu'on peut les faire entrer au Louvre? Donc l'idée qui a été celle de Laurence Descartes d'ouvrir une entrée du côté de la colonnade, qui est majestueuse, magistrale, qui sera une entrée magnifique et qui permettrait d'accéder aux expositions temporaires, à la Joconde, au département des antiquités égyptiennes, ça va évidemment désengorger le musée. Et puis c'est aussi un projet urbain dans Paris, avec tout un quartier qui va être transformé, un quartier qui devient le centre du Paris artistique.
En même temps, c'est ce contre quoi beaucoup de musées luttent en faisant comme ça cette entrée, enfin de tout baser sur le chef-d'œuvre du Louvre, c'est donner encore moins de chances aux visiteurs de se perdre dans d'autres lieux et de découvrir d'autres...
Je ne suis pas sûr, il y a un public qui veut voir la Joconde, il ne faut pas l'en empêcher, mais il y a aussi un public qui a envie de voir Véronèse, qui a envie de voir Titien et qui peut prendre son temps dans cette salle que la Joconde a rendue inaccessible. Donc ça, c'est... Puis c'est pas parce qu'on ira voir la Joconde qu'on n'ira pas voir le reste.
Ce projet d'une nouvelle entrée, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau. Plusieurs directeurs y avaient pensé à la nécessité de créer une nouvelle entrée pour décongestionner la circulation au sein du Louvre au fur et à mesure que le nombre d'entrées chaque année allait crescendo et qu'à un moment la situation devenait intenable au niveau de la pyramide. C'est-à-dire l'entrée pyramide, comme on le dit, n'est pas la seule entrée du Louvre. Il y a une entrée par le carrousel, il y a une autre entrée par une porte qui donne sur la rue de Rivoli, donc il y a d'autres entrées, mais l'entrée principale, on va dire, c'est l'entrée de sous la pyramide. Donc, lorsque Laurence Descartes était nommée en 2021, elle en a fait une priorité. Et depuis 2021, elle a essayé de porter le dossier à plusieurs reprises auprès des différentes ministres de la Culture qui se sont succédés et de l'Élysée. Et elle a trouvé comme moyen pour faire passer ce dossier d'y adjoindre la question indispensable, nécessaire, de travaux, parce que le Louvre, en fait, craque de partout. C'est un bâtiment qui n'était pas du tout fait pour devenir un musée, qui est pluriséculaire. Et puis finalement, Emmanuel Macron a dit « Ok ». Ça tombait bien pour lui politiquement parce que c'était un moment où il avait un peu disparu de la scène intérieure, où la dissolution qu'il avait décidée l'an dernier était quand même visiblement ratée, où il était au plus bas des sondages, plus isolé que jamais, plus démonétisé que jamais. Et bon, revenir avec un projet assez flamboyant pour le musée le plus visité du monde, qui est le fleuron français, bon, voilà, ça c'est bien politiquement. Et par ailleurs, les travaux d'urgence sont vraiment nécessaires. On ne peut pas faire autrement. Donc les travaux de réfection, de remise aux normes, qui sont indispensables, vont être financés pour partie par une dotation du ministère de la Culture sur 15 ans, mais surtout par une augmentation du billet d'entrée. Donc à nouveau, on fait appel aux ressources propres du musée. Augmentation du billet d'entrée pour les non-ressortissants de la communauté européenne. Ce qui veut dire, vous êtes irakien, si vous voulez voir le code d'Hammurabi, vous payez plus cher. Vous êtes africain, pour voir les objets qui sont au pavillon des sessions, dont certains peuvent peut-être être réclamés par des pays africains, vous allez payer plus cher. Bon, c'est-à-dire on rompt avec l'universalisme du musée. Puis de l'autre côté, le projet d'aménagement d'une nouvelle entrée et de nouvelles salles sous la cour carrée, là, il n'y a pas d'argent public possible, donc tout doit être financé. Et c'est là où le bât blesse, parce que lancer un projet de cette nature sans avoir le début d'un financement, je trouve ça assez irrationnel, en fait, par les temps qui courent, avec les urgences qu'ont beaucoup de musées, je trouve ça assez inconséquent. C'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire quand il y a eu le Grand Louvre avec le duo Mitterrand-Lang, À ce moment-là, l'État a pris en charge le coût du chantier. C'était un chantier qui était pharaonique à l'époque. D'ailleurs, on représentait Mitterrand en sphinx. Hein. Dans le monde, on le représentait façon sphinx. C'était Plantu qui le représentait comme ça. Et l'État a pris voilà, ses responsabilités. C'était le fait du prince, mais le prince payait. Le prince était large, généreux. Aujourd'hui, c'est le fait d'un prince qui ne paye pas.
On paraît découvrir que les musées sont des sources de profits induits. Au fond, on crée de la richesse en créant des musées. Mais cette idée, qui est très juste, je suis persuadé, il y a des retombées, évidemment, c'est une évidence. Et déjà, j'ai noté une phrase du comte d'Angivillers qui essaie de persuader le roi Louis XVI qu'il faut transformer le Louvre en musée. Et il écrit que cela attirera dans la capitale un concours d'étrangers dont le séjour et les dépenses rendront au centuple la mise qui aura été faite pour les y attirer. Voilà, tout est dit. Et on est avant la Révolution. Donc le musée est une idée révolutionnaire, mais c'est aussi économiquement une idée qui avait été parfaitement comprise à la fin de l'Ancien Régime.
Saskia Cousin, en tant que professeur de sociologie, vous travaillez aussi sur le tourisme. Dans quelle mesure l'afflux de tourisme du monde entier a changé la fréquentation des musées ?
Les grands musées français ont toujours été très fréquentés par rapport à, il faut voir, aux milliers d'autres petits musées qui sont sous-fréquentés. Donc là, on va parler juste des très grands musées qui sont beaucoup les musées parisiens. Pendant longtemps, les musées étaient pensés comme des lieux de collection. Et puis, on acceptait les visiteurs. On peut dire qu'il y a une bascule dans les années 2000, hein, qui est l'économie dite les industries culturelles, l'économie créative, etc., où finalement, les musées deviennent une partie d'un système qui est système touristique. C'est-à-dire, pendant des années, on a considéré que le tourisme était un pis-aller, une obligation un peu compliquée d'un système culturel. Aujourd'hui, peut-être pas à l'échelle des conservateurs, mais à une échelle plus globale, on considère que les musées sont un élément d'une grande politique qui s'appelle l'économie touristique. Et la culture, le tourisme culturel, la culture est un élément d'un jalon dans le parcours de consommation du touriste. Et donc, évidemment, les effets dans les usages, c'est qu'on va plus raisonner en termes de conservation des collections, rapport à l'œuvre, éducation, pédagogie, démocratisation, tout ce qu'on veut, même si ça a montré ses limites, mais en termes de gestion de flux, par exemple. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des gestions de flux, mais il y a un renversement. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de gérer, en fait, est-ce qu'on peut avoir 30 000 visiteurs ou 35 000 ou 40 000, est-ce qu'on est à 9 millions, il faut arriver à 10 millions, avec toujours un discours touristique qui est, à l'échelle de l'État, parce que c'est très différent au niveau des collectivités, quantitatif. Il faut 100 millions de touristes en France, 10 millions de visiteurs au Louvre, par exemple. Donc c'est un discours quantitatif qui implique, par exemple, qu'on ne va pas se poser la question en termes de découverte, de faire découvrir, mais en termes de gestion de flux. Si les gens veulent voir la Joconde, on fait un espace annexe, où les gens viendront juste voir la Joconde. Si on réfléchit en termes culturels, on peut se dire les gens ils viennent pour la Joconde. Hein. Quand on va dans un pays, on veut voir les trucs iconiques, donc en Paris, la Tour Eiffel, la Joconde, Notre-Dame. Et ensuite, le boulot du musée, c'est de se dire on va aider les gens à voir autre chose. À mon avis, on va exactement dans le sens inverse, puisque là, ce qui est prévu, c'est une entrée séparée, un billet séparé, où les gens vont juste venir voir la Joconde. Et par ailleurs, vous arrivez à l'aéroport de Paris, vous avez direct la Joconde affichée partout. Et donc, en fait, on renforce en permanence cette logique qui est une logique de consommation.
Mais ce qui paraît étrange, puisque pourquoi être si avide de clients alors qu'il y a manifestement un énorme problème de gestion de flux, notamment au Louvre ?
C'est la question. Je pense qu'il n'y a jamais eu de politique touristique en France, au sens où de réflexion sur quel est l'enjeu, en fait, politique d'accueillir des gens. Un outil qualitatif serait le temps passé, mais ça, c'est jamais quelque chose qui va être pris en compte, par exemple.
Si on compte le temps passé dans la queue...
Alors, le temps passé dans la queue, oui, mais aussi le temps passé dans le Louvre. C'est-à-dire que là, évidemment, on va pouvoir faire la scansion en termes de gestion des flux. Chaque personne pourra rentrer, faire son selfie devant la Joconde et repartir. C'est-à-dire que la possibilité de se perdre dans le Louvre, de découvrir des choses qu'on n'aurait pas imaginées, d'ouvrir quelque chose, va être structurellement empêchée par la volonté de gérer des flux.
27 août 1965.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans le Louvre ?
Eh bien, dans le Louvre, j'ai voulu voir quand même la victoire de Samothrace, la Vénus de Milo,
les joyaux de la couronne et la belle Joconde qu'on en parle tant.
Qu'est-ce que vous pensez de la Joconde?
C'est une splendeur, elle est belle tout pleine. On dirait qu'elle sourit, qu'elle rit. En réalité, elle est sérieuse.
On va voir les icônes, et on va voir les icônes. Mais les icônes, elles se créent parce qu'on arrive aussi à bien communiquer dessus.
Émilie Gérard, présidente de l'ICOM France.
Et je vous dirais que chaque musée peut avoir sa Joconde ou sa mini-Joconde, mais il faut aussi pouvoir avoir les moyens de la faire connaître, de faire connaître ses icônes, de faire connaître ses chefs-d'œuvre. Donc je crois que tous nos musées sur le territoire ont la chance, parce qu'il y a eu aussi cette politique d'envoi dans les musées de région dès après la Révolution française, des chefs-d'œuvre sur l'ensemble du territoire. Donc c'est aussi peut-être le message que collectivement il faut que les musées fassent passer, c'est que nos musées sont riches, quel que soit l'endroit où ils se situent, et que passer la porte de ces établissements, bah, ça vaut le coup.
Bonjour madame.
Johnny Royer, vous êtes chargé de communication à l'office de tourisme de Colmar. Quels sont parmi tous ces musées à Colmar, le musée le plus fréquenté ?
Le musée le plus fréquenté, c'est le musée Unterlinden. On est à un petit peu plus de 170 000 visiteurs à l'année, donc c'est une fréquentation qui est déjà conséquente. C'est notre vaisseau amiral, c'est celui qui a la plus importante fréquentation, mais c'est aussi celui qui a la plus belle collection en termes de volume et de prestige. Ensuite, vous allez avoir le musée du jouet en seconde position. Alors le musée du jouet, c'est parce que justement, il attire ce public familial, parce que les collections sont ludiques, dans tous les sens du terme. Et pour le coup, peut-être que le musée du jouet va attirer spontanément plus une clientèle locale, parce que on n'est pas sur une thématique auquel les visiteurs pensent spontanément quand ils vont venir découvrir la ville de Colmar. Spontanément, dans le bon sens du terme, si je puis dire. On promeut le musée Unterlinden parce qu'il faut voir le retable d'Isenheim, mais derrière, le musée du jouet se place bien parce que la clientèle est un peu différente. Mais ensuite, on va avoir le musée Bartholdi, puisque Bartholdi est originaire de la ville de Colmar, et donc on a la chance d'avoir un musée qui est dédié à son œuvre dans sa maison natale, et le parcours muséal des Dominicains qui vont être au coude à coude autour de 36-37 000 visiteurs. Donc voilà, on a, avec des clientèles différentes, mais on a vraiment une fréquentation qui est quand même intéressante sur l'ensemble des sites.
Et vous venez d'Allemagne ?
On a 40% de public allemand.
C'est énorme.
C'est énorme. Il y a une grande dynamique transfrontalière.
Camille Brook, directrice du musée Unterlinden à Colmar.
Et c'est pour dire aussi à quel point, quand je parle de musée de territoire, on oublie là, alors voilà, on va dire que le contexte européen aide. Mais le Rhin supérieur, c'était vraiment une région qui allait des Vosges à la Forêt-Noire. Donc on est vraiment sur une région à cheval sur le Rhin, et nos voisins allemands le savent. Et donc quand ils viennent au musée Unterlinden, c'est une partie de leur patrimoine qu'ils viennent voir également. C'est un vrai enjeu aujourd'hui pour le musée Unterlinden de dépasser l'identification Unterlinden égale retable d'Isenheim sans la nier. Parce qu'encore une fois, en effet, c'est un point d'attraction fort et ça explique notre fréquentation assez exceptionnelle pour un musée dans une ville de la taille de Colmar.
C'est combien de personnes à peu près par an ?
On est autour de 170 000, entre 170 000 et 180 000 visiteurs. À Colmar, on a 60 000 habitants. Donc ça veut tout dire. Mais c'est vrai que le musée Unterlinden ne se réduit pas du tout à ça. Et il y a un vrai travail à faire en termes notamment de communication pour rappeler qu'on a autre chose. Mais le rappeler à qui ? Pas forcément aux touristes, puisque les touristes, ils vont toujours venir voir le retable d'Isenheim. Mais finalement, venant voir le retable d'Isenheim, ils vont découvrir tout le reste. Ils vont venir, quoi qu'il arrive. C'est plutôt les personnes qui ont déjà vu le retable d'Isenheim mais qui n'ont pas forcément envie de le revoir ou qui s'en souviennent bien, auxquelles il faut parler et auxquelles il faut dire « Venez voir, on a autre chose ». Alors ça passe par une mise en valeur plus forte en termes de communication des autres collections permanentes qui sont présentées au musée. Et puis ça passe aussi par des expositions temporaires qui s'appuient sur la diversité des collections du musée pour proposer des sujets qui ne sont pas forcément en lien avec le retable d'Isenheim.
Nous sommes ici au niveau le plus haut, en tout cas le plus haut accessible au public du musée aujourd'hui, qu'on appelle chez nous le palier Besson.
Amandine Royer.
C'est le sommet, si je puis dire, de l'architecture construite dans les années 1960 par Louis Miquel, et c'est celle sur laquelle on présente la donation d'un peu plus de 200 peintures constituées par Georges et Adèle Besson. Donc c'est une collection qui rassemble des peintures qui vont des nabis, la fin du 19e siècle, jusqu'aux années 1950. Et pour les œuvres qui sont les plus prestigieuses aujourd'hui, on a une œuvre de Matisse, une œuvre de Félix Vallotton, de très beaux paysages d'Albert Marquet, des paysages méditerranéens, des paysages parisiens. Et puis ces deux grands tableaux, bien sûr, de Pierre Bonnard, qui sont parmi les chefs-d'œuvre du musée, le café du Petit Pousset, deux grands panneaux qui représentent le café. Bonnard est à la terrasse et tantôt il regarde dedans, tantôt il regarde dehors.
Quel public fréquente le musée des Beaux-Arts de Besançon ?
Alors, sur l'année dernière, en 2024, mais ces chiffres commencent à se stabiliser, on le sent, depuis 2 ou 3 ans, parce qu'en plus, ces dernières années, avec le Covid et après la reprise petit à petit, on sent là qu'on revient à une sorte de rythme de croisière, mais depuis 2020, 2021, 2022, c'était assez chaotique. Le public est majoritairement tout de même bisontin et grand bisontin, comme on le dit ici, c'est-à-dire vraiment la métropole de Besançon. C'est la moitié de la fréquentation du musée des Beaux-Arts et d'archéologie. Si on ajoute à ça la région Franche-Comté, c'est 2/3 de la fréquentation du musée des Beaux-Arts. Et pour le public national, donc toutes les autres régions excepté la Franche-Comté et le public étranger, c'est 10% de la fréquentation, donc c'est pas mal du tout pour un musée comme celui-ci, dans une ville de 120 000 habitants, avec une agglomération d'un peu plus de 250 000 habitants.
Est-ce que ça change quelque chose pour le public, en tout cas le public local, le fait que ce soit un musée municipal ?
Je ne crois pas que ça change quelque chose pour le public. Je ne pense pas que ça change quelque chose. Après, nous sommes en France, pays dans lequel la culture jacobine est encore très prégnante et dans laquelle il y a une forme de hiérarchie entre ce qui est national et ce qui ne l'est pas, en tout cas dans la tête de certaines personnes. Donc peut-être que pour certains visiteurs, un musée municipal est moins prestigieux, moins intéressant qu'un musée national. Malgré tout, nous travaillons tous avec le même code de déontologie, nous sommes régis par les mêmes lois. En tant que professionnels, nous sommes souvent formés dans les mêmes endroits, dans les mêmes lieux de formation. Donc ce qui fait la différence après, c'est surtout d'abord la nature des collections, qui est plus ou moins prestigieuse d'une collectivité, d'une ville à l'autre. Et puis aussi l'ambition de la collectivité pour le ou les musées qu'elle régit, puisque là aussi, une ville peut décider de consacrer plus ou moins d'argent au musée de son territoire, au musée au pluriel ou au singulier. Donc ça joue aussi effectivement sur l'image du musée et donc sa fréquentation par le public.
Quelle est finalement la différence avec un musée national ou départemental ? Est-ce qu'en termes de fréquentation, de rentabilité, vous avez d'autres obligations ?
Alors, le fait que nous soyons un musée municipal veut dire que nous travaillons dans un bâtiment qui appartient à la ville de Besançon, que les collections elles-mêmes appartiennent à la ville de Besançon, que tout le personnel qui travaille au musée est un personnel municipal, donc en grande majorité fonctionnaire, territorial, parfois contractuel quand des fonctionnaires ne sont pas disponibles pour occuper les emplois, que notre budget de fonctionnement est voté par le conseil municipal de Besançon et que l'ensemble des frais de fonctionnement et d'investissement du musée sont supportés par la ville. Ensuite, comme tous les musées municipaux en France, nous bénéficions de subventions qui sont octroyées par le ministère de la Culture, parfois par d'autres collectivités, conseil régional, conseil départemental. Ici à Besançon, c'est le conseil régional qui subventionne l'activité des musées. Le département n'a pas fait ce choix. Et puis, nous avons aussi du mécénat. Et là, les démarches sont entreprises par le personnel du musée ou le personnel municipal et sont à renouveler, en fait, sur chaque projet qui peut intéresser un mécène.
À l'origine des musées, la gratuité était un principe fondateur. Il permettait à tous un accès direct aux œuvres, un trésor inestimable. Aujourd'hui, on observe le phénomène inverse. Pour certains, la gratuité dévaloriserait les œuvres exposées et détournerait les visiteurs. Ainsi, en mars dernier, le conseil départemental du Val-d'Oise a décidé de rendre l'entrée de 3 musées payantes. Le musée archéologique, l'abbaye de Maubuisson et le musée de l'Outy à Ouy, dit Joli Village, étaient gratuits depuis 2011, mais il est apparu que cela nuisait à leur fréquentation. Pourtant, la gratuité permet un rapport à l'art et une spontanéité que l'on a perdue avec la multiplication des grandes expositions où l'on doit réserver son créneau horaire des semaines à l'avance. La gratuité, c'est la possibilité de déambuler dans les rues de Rouen et d'entrer au musée des Beaux-Arts, juste pour passer voir le Caravage. Ou revenir à l'infini au musée d'art moderne de Paris et arpenter les salles de la collection permanente.
La première étape, c'est la question de la gratuité ou non de l'accès.
Dominique Poulot.
Et c'est un débat qui a été très long, mais qui commence dans les années 1920, et qui est en fait compliqué parce que ceux qui défendent le paiement d'un droit d'entrée défendent aussi la possibilité pour les musées d'acquérir des œuvres. C'est-à-dire l'idée est de constater que les musées sont dans une misère absolue, qu'ils n'ont aucun moyen d'intervenir sur le marché, donc aucun moyen d'agrandir leur collection, sauf par des dons, ou sauf en passant par les sociétés des beaux-arts locales ou par les sociétés des amis de musées qui commencent à apparaître. Et le fait de faire payer un droit d'entrée permettrait de donner à ces musées quelques ressources. Il y a aussi une deuxième raison qui est une série de polémiques sur l'entrée, on dirait aujourd'hui, de SDF, on disait de clochards dans les musées. Et évidemment, le fait de leur faire payer l'entrée ferait disparaître cette population qui est régulièrement considérée comme inadaptée à la grandeur de l'établissement, surtout en hiver où ils vont se chauffer. L'idée était donc de débarrasser au fond le public des musées de leurs visiteurs indésirables.
Ici, à Besançon, en fait, l'entrée du musée est payante et le tarif est le même qu'il y ait une exposition, qu'il n'y ait pas d'exposition. On n'a pas de tarif différencié pour l'exposition. Le tarif d'entrée est à 9 euros pour le plein tarif et 4,50 euros pour les tarifs réduits. Et il y a ensuite toute une politique de gratuité pour tous les moins de 18 ans, les personnes en situation de handicap. Il y a des tarifs réduits pour les groupes aussi, tarifs préférentiels pour les scolaires.
On a des tarifs dans les musées français qui sont peu élevés par rapport à d'autres pays.
Émilie Girard.
En France, c'est assez partagé, ça dépend des tutelles et de la politique qu'elles souhaitent mener. Il y a la gratuité, il y a tous les tarifs réduits. Et même si les musées ne sont pas gratuits, enfin, vous donner un chiffre, dans plusieurs établissements que j'ai connus ou dans lesquels j'ai pu travailler, il y a parfois 50% de gratuité avec tous les systèmes pour les moins de 18 ans, pour les étudiants, pour les bénéficiaires de minima sociaux. Donc, même quand il y a tarif, tout le monde ne paye pas le plein tarif. Et ça, je crois qu'il faut le dire. Donc, on essaye, quand on revoit sa politique tarifaire, de toujours penser à la fois à ce dont on a besoin financièrement, parce que je crois qu'il faut oser le dire aussi. Les musées ont besoin de ressources pour pouvoir offrir quelque chose à leurs visiteurs qui soit de qualité. Et à privilégier aussi ce souci de l'inclusion, ce souci de la démocratisation culturelle qui continue évidemment à guider notre travail.
Vous savez, je vois les jeunes aujourd'hui, jusqu'à 25 ans ou 26 ans, ils ont des places ou gratuites ou à 10 euros.
Didier Fusilier, président du Grand Palais RMN.
Moi, je ne cesse de dire, quand on voit les enfants, mais profitez de l'époque bénie où vous pouvez rentrer gratuitement là-dedans, vous rentrez, vous sortez comme vous voulez, et par présentation de votre carte d'identité. Tout ça, c'est prodigieux quand même. Et je pense que c'est, il faut donner envie. Il faut, et puis dire aux enfants, c'est ce que nous faisons. On a signé une convention avec les 3 grandes académies parisiennes pour que les enfants puissent rentrer même une demi-heure. C'est-à-dire, on n'est pas obligé, quand on va au Louvre, de visiter tout le Louvre. On peut aller voir les appartements d'Anne d'Autriche, on peut aller voir la formidable exposition sur la mode, on peut aller voir que la peinture italienne ou que la peinture française. On y reste une demi-heure, on ressort. Mais on prend, enfin, ça fait partie de votre vie. Et puis après, vous avez surtout dans le budget une grande part qui vient des profits que nous tirons des boutiques. Sauf que la différence par rapport à avant, c'est que nous sommes dans le champ concurrentiel maintenant. On tombe dans les appels d'offres privés. Donc nous répondons avec des Chinois, des Anglais, des Français, qui sont des groupes privés, qui évidemment seraient très heureux de récupérer le Louvre. Sauf que vous avez le Louvre, vous avez la Joconde. Et en reproduction, évidemment. Alors ça, ça a beaucoup changé. Donc au début, il y a encore 3 ans, on a perdu quelques boutiques, même importantes. Et là, on vient d'en regagner 5 ou 6. Et donc on est en appel d'offres en permanence. Et donc il y a une mutation quand même complète de notre façon d'être, de nos équipes aussi. Les équipes n'étaient pas habituées à ça, si vous voulez. C'était renouvelé, c'était un monopole, hein, comme dans beaucoup de pays encore aujourd'hui. Les musées nationaux qui appartiennent à l'État, leurs boutiques sont nationales. Nous, non. Vous avez beaucoup de boutiques aussi, maintenant, de musées qui sont tenues par des privés. Donc, il faut qu'on change, évidemment, tous nos critères, tous nos paramètres.
Lesquels, par exemple ?
Ben, la production des objets, nous produisons nous-mêmes, alors on gagne, parce qu'évidemment, nos conditions sociales n'ont rien à voir avec les conditions de privés qui peuvent prendre des vacataires à l'heure, etc. Nous, non, on est sur des conventions sociales vertueuses, fortes, mais enfin qui ont un coût aussi. Alors notre façon de produire des objets avec des petites unités de production, que ce soit en Ile-de-France, mais aussi à Limoges, vous achetez une tasse à café Marie-Antoinette à Versailles, elle est faite en France, elle est faite avec des produits magnifiques, donc vous n'achetez pas un mug que vous pourriez acheter. Et donc ça contribue beaucoup aussi avec nos maisons d'édition, parce qu'on a la première maison d'édition depuis peu, la publique française, hein, on est dans les 28 plus grandes maisons d'édition en France, donc on produit beaucoup de catalogues, c'est nous qui avons les fonds et qui gérons les droits de ces photographies.
Le 4 août 2009.
Le musée du Louvre, ses chefs-d'œuvre, mais aussi un endroit tout aussi célèbre, la boutique Souvenir. Près d'un visiteur sur deux passe ici, soit 10 000 par jour.
Ça peut être une tasse, ça peut être un livre, ça peut être un tapis de souris.
Elle voulait la Joconde, elle a trouvé la Joconde.
De la confiture Marie-Antoinette, un moulage miniature ou encore la réplique d'une bague égyptienne vieille de 3000 ans. Ici, on dépense en moyenne 15 euros. Un chiffre d'affaires en augmentation, 30 millions d'euros en 2008, la principale source de revenus pour la Réunion des musées nationaux qui sert notamment à organiser les expositions.
Donc si vous voulez, tout ça mis bout à bout nous donne une force de frappe qui peut compenser effectivement le moins-disant que nous avons sur d'autres questions financières. Et c'est cette alchimie-là qui nous permet de reconquérir certaines boutiques avec quand même, c'est intéressant parce que nous, on ne fait pas de profit. Enfin, on gagne de l'argent parce que sinon, ce sont les impôts qui payent. Donc, c'est plutôt vertueux de se dire que ces grands établissements publics ont aussi 84% de leurs ressources qui viennent de leur activité.
Quelles sont les boutiques qui sont passées au privé ?
Oh ben ça, c'est un jeu. Vous avez par exemple le musée du Quai Branly, qu'on n'a pas pu garder, les Arts Déco, enfin voilà, enfin on n'a pas tout. Mais bon, petit à petit, bon, on a regagné le Louvre, on a regagné Versailles, on a gagné
vous
le musée de l'armée.
N'aviez plus le Louvre ?
Si, on avait le Louvre, mais nous étions en compétition. Et croyez-moi, ça a été totalement féroce. Hein. Ça doit être, c'est 8 mois. 8 mois de compétition pour une boutique comme ça. Mais on l'est aussi au Louvre à Abu Dhabi. Nous avons des filiales, puis nous développons. On a eu aussi le Grand Palais Immersif, hein, qui est à Bastille. On a aussi des projets ailleurs de création de filiales sous l'étiquette Grand Palais, mais qui sont des filiales.
C'est vrai qu'avec un public touristique, notre boutique est plutôt aussi une source de recettes propres importantes.
Camille Brooke.
Et donc il y a toute une réflexion à avoir sur la politique d'achalandage de cette boutique. Qu'est-ce qu'on y trouve ? À quel prix ? Et aussi, parce que pour moi derrière il y a ça qui est important, c'est quelque chose qui n'existe pas encore au musée, pas vraiment, mais que j'aimerais vraiment qu'on mette en œuvre, c'est la responsabilité, ou l'éco-responsabilité, ou même la responsabilité sociale qu'on a sur les objets qu'on achète et qu'on remet en vente.
les matériaux qui les composent, les personnes qui les ont fabriqués, le pays de fabrication. De plus en plus de musées se posent la question justement d'avoir une démarche éthique et responsable dans le choix des objets et même des publications qui sont mises en vente dans leur boutique. Et pour moi, en effet, on doit être assez exemplaire de ce point de vue-là, ou le plus possible.
La porte d'entrée, moi, je le crois tout à fait. Des musées sont sur les boutiques. Vous savez, c'est le problème de Bourdieu, des portes. Le problème du musée, c'est pas le musée, c'est la porte. Comment on fait pour entrer là-dedans? Parce qu'une fois qu'on y est, on s'y sent bien. Le problème, c'est comment on fait pour passer de la rue à ça quand on n'a pas eu l'éducation, vos parents vous ont pas emmené depuis que vous étiez tout petit, puis que vous ne savez même pas comment on fait pour entrer. C'est costaud de rentrer au Louvre. Enfin, c'est pas simple. Donc, les boutiques sont souvent des moyens de voir une œuvre, on la voit en petit, et comme disent les enfants, d'avoir cette envie absolue de la voir en vrai, de voir à quoi ça ressemble, parce que ça a passé le filtre, le tamis des temps, et donc il faut qu'on s'approche de l'original.
Donc les boutiques sont très importantes. Moi je trouve que ce sont souvent des lieux très agréables.
Isabelle Reza.
Moi, j'ai toujours été assez fan des petits aimants qu'on peut coller sur son frigo parce que dans une famille, les enfants vont jouer avec. Mais ça fait aussi partie, d'une manière très anodine, d'être en relation avec des œuvres. Et combien de fois j'ai vu des enfants dans une exposition dire « Ah, mais je connais, on l'a sur le frigo à la maison ». C'est tout bête, mais c'est aussi ces petits fils qui vous raccrochent. Et moi, je crois toujours à l'idée de prismes qui vont fonctionner. Il n'y a jamais une solution, mais il y a toujours un ensemble de choses. Donc effectivement, plus les gens seront baignés d'art et de culture, forcément si je fais ce travail, c'est que je suis convaincue que c'est important. Donc plus les gens seront baignés, mieux ils seront et mieux tout le monde ira. Et pour en être baigné, on ne va pas tous les jours au musée, on ne lit pas tous les jours les articles scientifiques du catalogue de l'expo qui est sur le salon de la maison. Tout va être important. Donc c'est aussi parce que l'art nous atteint par un post Instagram, par un petit carnet, par un petit cadeau, une carte postale, qu'on va y être. Donc moi, les boutiques de musée, je les aime beaucoup. C'est quelque chose que je trouve réjouissant.
C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde. La Joconde, c'est moi que je suis la Joconde.
Merci à Amandine Royer, Roxana Azimi, Didier Fusilier, Isabelle Reza, Laetitia Magnier, Annabelle Ténez, Adrien Goetz, Saskia Cousin, Émilie Gérard, Johnny Royer, Camille Brooke et Dominique Poulot. Documentation Annie Signoret, Archivina Émilie Lacot, prise de son Olivia Branger, Yvan Charby, Laurent César, Éric Audra, Christian Laondès, Marc Garvanès et Jean-Baptiste Etcheparebord. Mixage Valérie Lavalard. Chargée de programme Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination Emmanuel Laurentin. C'était Musée, la réinvention permanente. Troisième épisode sur fréquentation et financement. Un documentaire de Christelle Le Polotech, réalisé par Agnès Catou.
Je sourirai sous les bombes.
À suivre, le temps des restitutions.
La Joconde, la Joconde.